Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Le Seigneur est présent aujourd'hui au milieu de nous, présent parce que nous répondons à cet appel qu'il nous a lancé, présent aussi pour entourer une famille qui a demandé le baptême pour sa petite Noémie. Il s'agit de Thomas et de Marie-Laure. Et c'est ensemble que nous allons vivre ce temps de culte, un temps de célébration, un temps pour nous mettre au plus proche de la vie selon Dieu. Et pour vivre ce temps, je vous propose de commencer par nous lever pour chanter le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français, « Ô Seigneur, ta fidélité ». Éternel, c'est de toi que nous recevons l'espérance dans ce monde passablement troublé. C'est de toi que nous recevons le secours au milieu des épreuves. C'est de toi que nous recevons l'amour au cœur des divisions. Tu es le Dieu qui aime jusqu'à donner son propre Fils pour nous, pour tous les humains. Alors pour cet amour qui nous rejoint, qui nous porte, qui nous lance dans la vie, béni sois-tu. Amen. Et chantons Dieu au psaume 118. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 6 du psaume 118.
Thank you.
Prenons place pour entendre l'expression de la volonté de Dieu à notre égard, c'est-à-dire une manière d'être chrétien. C'est dans l'Évangile selon Matthieu ce que l'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous nous recueillons dans la prière. Éternel, au regard de ces paroles, ce que je te demande, c'est de me débarrasser une bonne fois pour toutes de mon souci de paraître. Pardonne-moi de vouloir ressembler aux autres en oubliant d'être moi-même. D'envier leurs qualités en oubliant de développer les miennes. Pardonne-moi, Seigneur, et accueille-moi comme ton enfant, ô Père. Aide-moi à devenir moi-même. Aide-moi à devenir un frère pour mes frères. Amen. Voici dans le livre du prophète Jérémie quelques paroles qui font écho à notre prière. Oracle du Seigneur en quelque sorte. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Frères et sœurs, chantons à Dieu notre reconnaissance. Au fond, ce qu'exprime cet oracle qui retentit dans le livre du prophète Jérémie, c'est l'expression même de notre foi, une foi qui nous fait dire que Dieu est amour. Par amour, voyez-vous, Dieu, notre Père, a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour-là. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre comme chaque jour en répondant à son amour. Dans l'Église, comme artisan de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisan de justice et de paix, dans son royaume qui vient, voyez-vous, où l'amour éclaire toutes choses, Dieu est amour. C'est ce que nous pouvons croire. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place, sauf Noémie, donc, qu'on accueille chaleureusement au milieu de cette communauté, de cette assemblée que nous formons ce matin, ainsi que Amandine, Paul-Édouard, ses parrains marraines, et puis Thomas et Marie-Laure, eh bien, ses parents. Alors déjà, Noémie, elle danse un peu pendant les cantiques, donc c'est déjà un bon signe qu'elle puisse participer donc à ce temps de culte, à ce temps de culte où elle va être baptisée. Alors bien entendu, elle est un peu baptisée de force, mais elle est aimée de force aussi par ses parents. Et c'est justement le fait que ça ne soit pas son choix d'être aimée par des gens, d'être accueillie dans l'Église, d'être aimée par Dieu. C'est ça qui montre effectivement qu'il n'y a plus de chantage et que nous sommes donc sous l'amour, comme le disait à l'instant James. Il n'y a plus de chantage, elle est aimée sans condition, dans l'espérance qu'elle apprendra, grâce à l'amour dont elle est aimée, elle apprendra à elle-même aimer, mais ça sera son choix libre. Le baptême est vraiment le signe de ce Dieu qui, en Jésus-Christ, vient à notre rencontre et nous donne la vie. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Ô notre Dieu, c'est notre joie et notre salut de t'adorer. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il a annoncée au monde entier. Bonne nouvelle d'une grâce, d'un amour, d'une lumière qui est en toi, notre Dieu, notre Père et Mère. Amour, grâce, lumière que tu offres gratuitement et sans condition à tout être. Aujourd'hui, nous te présentons en particulier Noémie pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour tous ces dons, ô Éternel, nous te célébrons. Et donc, le baptême est le signe de cette alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines, dès l'aube de l'humanité, et que de génération en génération, il renouvelle. Par le baptême, Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ. Ce baptême signifie que Dieu a aimé Noémie le premier. Il l'appelle « ma fille bien-aimée ». Ce nom est appelé et donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour, elle pourra reconnaître en Dieu un père, une mère qu'elle a dans les cieux. Alors Noémie, tu seras accompagnée sur le chemin de la foi, sur le chemin de la réflexion aussi, pour donner du sens à ta vie. Et nous apprendrons avec toi, et peut-être aussi grâce à toi, à faire jaillir grâce à Dieu une vie nouvelle dans ce monde, une vie pleine de foi, de chaleur, de tendresse, et à bâtir ensemble un monde avec plus de justice et de paix. Et donc, oui, Noémie sera chez elle dans la communauté chrétienne. Alors, ce n'est pas simplement la communauté de l'Oratoire du Louvre, c'est une large famille de tous ceux qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Au-delà des églises particulières, au-delà des confessions particulières, elle sera reconnue comme faisant partie de l'Église, aussi bien par l'Église catholique que par les églises protestantes. Alors bien entendu, aucune contrainte ne retiendra Noémie, ne la forcera à faire partie de l'Église. Si un jour elle venait à s'en séparer, eh bien simplement sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour la recevoir. Alors ensemble, si vous le désirez, eh bien nous pourrons témoigner à Noémie eh bien des paroles qui sont dans la Bible, afin qu'elle puisse parvenir elle-même, si elle le désire, à confesser la foi de l'Église universelle, c'est-à-dire à reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur. Alors vous pouvez vous approcher donc de ce baptistère pour qu'elle reçoive le baptême chrétien. Noémie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Noémie, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, qu'il te soutienne de son amour, de sa parole, de sa lumière. Ne crains pas, dit l'Éternel ton Dieu, car je suis avec toi. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie de ma famille. Parents, parrains et marraines, vous voulez faire connaître à Noémie l'enseignement chrétien contenu dans la Bible pour qu'elle puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu, grâce qui a été attestée par son baptême, et qu'elle puisse ainsi, si elle le désire un jour, prendre sa part dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu vous donnera la force et la joie de tenir votre promesse. Alors vous avez choisi de lire un passage de l'Évangile pour témoigner déjà de ce que vous voulez transmettre à Noémie. Alors c'est son parrain, Paul-Édouard, qui va nous lire donc le début de l'Évangile selon Jean.
Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Merci pour cette belle page d'Évangile. Donc ça promet comme enseignement pour Noémie aussi bien donc le témoignage de l'Évangile et aussi donc de la philosophie, les deux venant s'articuler ensemble pour lui donner d'avancer dans sa vie libre et avec créativité. Donc vous avez préparé, Thomas et Marie-Laure aussi, un texte que vous voulez dire à Noémie.
Noémie, nous avons souhaité que tu sois baptisée aujourd'hui. Le baptême est le signe de l'amour inconditionnel de Dieu. Bien sûr, il t'aime déjà depuis ta naissance, et il continuera de t'aimer tout au long de ta vie. Plus tard, nous espérons que tu te rappelleras du baptême que tu as reçu comme un signe de cet amour, que cet amour puisse te guider dans la vie, te fortifier dans les épreuves, être un rocher sur lequel te construire.
Merci. Nous prions Dieu. Seigneur, oui, sans toi, nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Et nous n'avons rien à offrir qui puisse vraiment créer la vie. Devant cette petite Noémie qui attend tout de nous, nous mesurons notre dénuement. Alors toi qui nous accordes le pain spirituel dont nous avons besoin, renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit, afin que nous puissions transmettre à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous. Oui, merci pour cette famille qui accueille ainsi Noémie avec tant d'amour, tant d'intelligence, tant de respect. Que vraiment elle puisse en bénéficier pleinement et qu'elle puisse ainsi grandir en grâce, en force et en sagesse. Au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Merci beaucoup.
Chers frères et sœurs, les commémorations saluant la victoire de 1945 n'ont pas manqué, et c'était l'occasion de célébrer la paix, et ces célébrations étaient donc faites par autant de pays qui sont en état de guerre actuellement. Et cela m'a interrogé, comment pouvons-nous être finalement dans une sorte de guerre perpétuelle, latente, et je me suis demandé ce que la Bible pouvait bien nous dire à ce sujet, non pas comment entretenir le phénomène, mais y a-t-il quelque chose à faire pour enrayer cet état de fait ? Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une parole reçue en vision, j'espère que vous appréciez le paradoxe, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 2. Je vous lis les versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la Torah. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs. De leurs lances, ils forgeront des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Avant de reprendre ce texte, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 258. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 258. Levons-nous pour chanter Dieu. Éternel Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends ce texte bien vivant pour que nous y percevions ta parole. Chers frères et sœurs, au trouble que je venais d'évoquer sur cette guerre perpétuelle, en quelque sorte, s'ajoute le résultat d'une étude qui avait été menée à l'échelle mondiale dans les années 2010, qui n'a pas dû connaître beaucoup de modifications et qui faisait apparaître que 84% de la population de la Terre est croyante. 84% de la population de la Terre est croyante. Et dans le même temps, les conflits, la guerre, se sont répandus au point que nous pourrions dire que nous sommes dans une guerre totale, une guerre de tous contre tous quasiment. Alors, vous voyez, en rassemblant ces deux informations, on pourrait quasiment venir à la conclusion « croyons partout, paix nulle part ». Et il y a là quand même une sorte de hiatus. Parce qu'il me semble que la question de la paix est tout de même au cœur de la foi. Je ne parlerai que pour la foi chrétienne, mais n'imaginez pas un seul instant que j'imagine que dans les autres religions, la guerre soit le cœur de la foi. Donc le problème que je repère n'est pas qu'il y ait des guerres de religion ou des guerres menées au prétexte de la religion. Le problème est que les guerres sont manifestement menées par des croyants. Et c'est un problème parce que, je le répète, la paix est une partie intrinsèque de la foi. Je dis bien la foi, et non la foi biblique seulement. Il est question dans ce texte de toutes les nations qui vont affluer vers la maison de l'Éternel, des peuples nombreux. C'est à une époque où le pluralisme religieux est déjà bien campé. Il n'est pas question que tout le monde soit sous la même bannière israélite. C'est un texte qui pense bien à la question de l'universel avec les singularités de chacun, les peuples, les nations. Et parce que tous ces peuples, toutes ces nations tendent vers la maison de l'Éternel, il me semble que ce texte nous invite vraiment à penser la paix à partir de l'acte de foi, indépendamment de la religion à laquelle on souscrit individuellement. Et je dirais qu'Ésaïe s'adresse à l'humanité entière et pas uniquement à quelques-uns triés sur le volet. Et il me semble que nous pouvons, à ce titre, utiliser ce texte pour penser peut-être la paix universelle. Après, en quelque sorte, l'échec d'Emmanuel Kant qui disait « Pour une paix universelle, il faut une loi universelle, une police universelle et, grosso modo, la Cour pénale internationale. » Bon, tout cela, nous l'avons, mais la paix n'est pas encore bien installée. Alors tout d'abord, avec Ésaïe, relevons ce que la paix n'est pas. Elle n'est pas ce que bien des pacifistes annoncent régulièrement, par exemple, à savoir ce qui arrive quand on a supprimé les armes. C'est une opinion largement répandue que de penser qu'en démilitarisant les pays, la guerre cessera d'elle-même faute de munitions. C'est attirant, mais en tous les cas, ce n'est pas ce que dit ce texte. Vous avez entendu qu'on transforme les épées en socs, les lances en serpes. Eh bien, dans la chronologie d'Ésaïe, c'est la concorde entre tous les peuples qui conduit à l'inutilité des armes, et pas l'inverse. Ce n'est pas en supprimant les armes qu'on arrive à la paix. Supprimer l'arme nucléaire, il restera l'artillerie. Supprimer l'aviation, il restera les fusils d'assaut. Supprimer les grenades, il restera les sabres. Supprimer aussi les couteaux, vous pourrez encore étrangler votre voisin de bonne grâce. Et on pourrait même reprendre l'argument d'Ésaïe à contre-pied. Ésaïe qui dit que les armes sont métamorphosées en instruments de paix, eh bien, combien de crimes, combien de meurtres avec des poils à frire, avec des ceintures de pantalon. Autrement dit, l'armement n'est pas considéré chez Ésaïe comme l'élément, comme la condition sine qua non de la guerre. Et donc ce n'est pas en supprimant l'armement que la guerre sera en quelque sorte vidée de sa substance. Ésaïe, effectivement, articule sa réflexion à la question des armes. Il dit que les croyants qui vivent dans la commune universelle sont en mesure de métamorphoser les armes en outils agricoles. Cela laisse entendre que pour Ésaïe, le croyant est celui qui est capable de voir en chaque chose, en chaque situation, son véritable point d'accomplissement. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple les découvertes scientifiques, nous savons qu'elles peuvent soit mener à l'utilisation militaire, soit à une utilisation civile. Le croyant est en quelque sorte celui qui pense les évolutions techniques, qui pense les évolutions scientifiques, par rapport à un point d'accomplissement qui servira à l'humanité. Et donc, cela laisse entendre qu'il y a chez le croyant la possibilité de pouvoir ramener ce qui fait notre monde dans une perspective vivable. Il ajoute que c'est parce que les nations n'entreront plus dans la spirale de la guerre qu'on n'apprendra plus à faire la guerre, et non l'inverse. Autrement dit, c'est parce que les croyants ont une visée bonne que la paix est capable d'être instaurée, et non pas parce qu'ils auraient à leur disposition les bons outils. C'est une question de visée, c'est une question d'éthique, en fait, chez Ésaïe. La croyance développée par Ésaïe, vous voyez, n'est pas une croyance fondée sur une sorte de pensée magique pour laquelle il suffirait de supprimer les armes pour supprimer la violence, comme d'autres penseraient qu'il suffit de supprimer l'argent pour supprimer le vol. Pas de pensée magique chez Ésaïe. Le deuxième point que je note, c'est que la paix ne s'impose pas, contrairement au baptême et à l'amour. Contrairement à toutes les paix qui seront instaurées dans le bassin méditerranéen avant et après ce passage biblique, et l'exemple le plus flagrant est certainement la Pax Romana, imposée manu militari, pour continuer avec les formules latines, Ésaïe ne propose pas une paix instaurée par la force. La paix ne se décrète pas, elle se décide. Allez et montons à la montagne de l'Éternel. C'est un mot d'ordre. C'est un rappel, mais sans emploi de la contrainte. Il n'y a pas de menace. C'est librement que les peuples vont se rendre vers la montagne de l'Éternel. C'est par une libre adhésion que les nations affluent. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est par une libre décision que les nations adhèrent à la Cour pénale internationale. Aucun pays n'est contraint de s'y soumettre. C'est en quelque sorte un élan de foi. Eh bien, nous avons ici cette même idée que la paix ne peut être instaurée que par une libre décision. Alors, nous savons que l'histoire du christianisme a connu sa période particulièrement contraignante. Nous avons eu notre période d'inquisition qui se fondait sur un petit passage de l'évangile de Luc où le maître de maison demande à ses serviteurs de remplir sa demeure en forçant les gens à rentrer dedans, en les contraignant, contraint-les d'entrer. Et cela a provoqué la réponse du philosophe protestant Pierre Bayle qui a écrit son traité sur la tolérance récusant l'usage de la contrainte en matière religieuse. La contrainte n'est pas une manière de faire. Ici, il n'en va pas autrement. C'est par l'entente mutuelle que la communion entre les nations s'instaure. Nous pouvons dire que c'est le travail diplomatique qui rend la paix possible, et pas l'usage de la contrainte. Ce n'est pas avec un pistolet sur la tempe que l'on fait véritablement la paix avec quelqu'un. On peut capituler, on peut signer une armistice, mais ce n'est pas la paix véritable. On a au mieux un traité de Versailles. Cette diplomatie n'est pas simplement une politique des bons sentiments. Ce n'est pas simplement une histoire de gentillesse communément partagée. Le ton est quand même affirmatif. Allez, et montons à la montagne de l'Éternel. Il y a de l'impératif, mais pas de contrainte, pas de menace. C'est une conviction qui s'exprime avec foi. Et cela dit quelque chose déjà sur la manière croyante d'instaurer la paix. C'est que la meilleure manière de préparer la paix, ce n'est pas la guerre, mais la paix. Je dirais que c'est par une attitude pacifique envers celles et ceux avec lesquels on souhaite faire la paix que la paix devient possible. Faites la guerre à quelqu'un, faites la guerre à un pays, eh bien, vous n'obtiendrez au mieux que l'armistice ou la capitulation, ce qui n'est pas la paix. Alors j'en viens maintenant à la question de l'attitude croyante, de la foi nécessaire pour l'instauration de la paix. Pourquoi la foi entre-t-elle en ligne de compte ? Eh bien parce que la foi change notre regard sur ce qui nous environne. La foi modifie notre regard sur ce qui nous entoure. Et donc, la foi modifie notre regard sur les autres, sur ceux avec lesquels nous sommes susceptibles de faire la paix. Voyons cela au plus près du texte biblique. Tout commence par une indication temporelle que nous pouvons traduire « il adviendra dans les jours d'après ». Alors souvent c'est compris comme la fin des temps, d'autant que le texte grec a traduit par « eschaton », ce qui veut dire « les choses dernières ». Et donc on comprend le jugement dernier. Au jour du jugement dernier, tout sera arrangé. Mais dans la pensée hébraïque, l'idée du jugement dernier, qui est une idée quand même assez médiévale, n'est pas vraiment développée de cette manière-là. Les jours d'après disent une succession. Ce sont les jours qui viennent après quelque chose. Quelque chose va arriver, sous-entendu, après que nous y ayons pris notre part, après un processus. Du moins, quelque chose qui permette d'atteindre ce moment où la paix universelle devient réalité. Si la paix ne s'impose pas, elle n'arrive pas non plus comme cela par enchantement. La paix vient après quelque chose. Il faut donc qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Je dirais que ce n'est pas le temps que l'on donne au temps qui permet à la paix de s'instaurer. Ce sont les paroles, les gestes, tous les signes que l'on va poser qui permettent de faire advenir quelque chose qui est de l'ordre de la paix. Elle vient après qu'on a travaillé pour cela. Et nous verrons que le travail est un travail sur soi. Indication temporelle, indication spatiale aussi. La montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem, mais Jérusalem, c'est 800 mètres. C'est plus bas que le Chambon-sur-Lignon. Je ne parle même pas du Mont-Aigoual. Et puis, si vous êtes allé à Jérusalem, vous verrez que l'esplanade du Temple n'est pas le point culminant de Jérusalem. Allez sur la colline où se situe le Mont des Oliviers et vous surplomberez la mosquée Al-Aqsa. Donc, cette indication spatiale n'en est pas une. En disant que la montagne de l'Éternel est au-dessus de toutes les montagnes, nous sommes bien dans un discours mythique. La topographie d'Ésaïe est clairement mythique et elle place son récit ailleurs que sur le plan géographique, donc politique. Ce qui est heureux car nous savons depuis le géographe Lacoste que la géographie, ça sert à quoi ? Ça sert à faire la guerre. Et bien précisément ici, Ésaïe ne fait pas de géographie, parce que ce qu'il veut, c'est faire la paix et pas la guerre. L'indication de lieu indique la qualité. La qualité du lieu désignée par son élévation. Quand on dit un grand homme, par opposition à un homme grand, ça parle bien de son élévation intérieure et pas de sa longueur. Eh bien, il en va de même ici. Nous parlons de l'élévation d'un lieu qui nous permet de porter notre regard vers le haut, ce qui est une métaphore pour dire nous nous élevons. Nous n'en restons pas au domaine de notre animalité, par exemple. Cela indique une transcendance possible pour atteindre le point d'harmonie entre les peuples. Autrement dit, ce n'est pas en restant campé sur ses positions, ce n'est pas en restant dans son pré carré, ce n'est pas en se fichant dans la terre de ses certitudes que la paix avance. C'est en se rendant au-delà de nous-mêmes, et même au-delà de ce que peut l'humanité, puisque nous sommes dans une géographie mythique, au-delà de ce que nous sommes collectivement capables, qu'un mieux vivre est envisageable. Il y a dans cette géographie mythique une sorte de dessaisissement. Il y a comme un dessaisissement de son droit sur un territoire donné et balisé. Les frontières sont comme abolies. La topographie connaît une nouvelle dimension qui rend caduque la certitude du sol, de l'institution, du pouvoir, de l'État. Et puis, il y a une troisième indication que je relève. C'est le point visé. Ce vers quoi tous les regards convergent. Ce qui tient lieu d'horizon à toutes les personnes qui se rendent vers la montagne de l'Éternel. C'est la Torah. La Torah qui sort de Sion. C'est la Torah qui permet d'apprendre les voies qu'il faut suivre, les sentiers qu'il faut emprunter. Autrement dit, il s'agit de se connecter à cette Torah. Non pas simplement se contenter de sa petite mélodie personnelle, non pas simplement se contenter de sa propre doctrine, mais se relier à une autre parole que la sienne. Il est précisé que c'est de Jérusalem que sort la parole de l'Éternel. Autrement dit, la Torah dont il est question n'est pas la Torah écrite, c'est la Torah parlée. L'horizon ultime de l'humanité rassemblée, ce n'est pas un texte, c'est un enseignement parlé, un enseignement qui n'est pas figé, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas définitif et qui n'est donc même pas défini. Qu'est-ce que la Torah ? La Torah, ce n'est pas simplement les 5 premiers livres de notre Bible. La Torah, c'est un projet. C'est le projet de l'instruction divine pour que les hommes deviennent vraiment humains. La Torah, certains voudraient effectivement que ce soit une sorte de morale, la vie mode d'emploi, le catalogue de tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le catalogue des servitudes qui font le bon croyant. Mais la Torah, ce n'est pas cela. C'est vrai que la Torah se part bien souvent d'atours à caractère moraux, de certaines prescriptions, de « fais pas ci » et de « fais pas ça », mais ces prescriptions ne sont pas des fins en soi. Elles sont comme des éléments qui permettent de dessiner le visage de celui sur lequel nous devons ouvrir les yeux, l'humain. La Torah nous apprend à reconnaître les frères et les sœurs qui sont masqués par les turpitudes de l'histoire. Le voilà, le travail personnel qu'il convient de faire soi-même et qu'autorise la foi. apprendre à reconnaître celui que la Torah me révèle comme un frère ou comme une sœur. Je dirais que la Torah, c'est une épiphanie. C'est une épiphanie plutôt qu'un grand code auquel il faudrait se soumettre. La Torah, y compris par ses prescriptions au caractère légal, esquisse le visage de l'humain, celui vers lequel nous devons nous rendre. Et quand nous comprenons cela, quand nous comprenons que la Torah nous aide à changer notre regard sur les autres, à voir peut-être plus profondément, à repousser les frontières qui nous semblent naturelles, eh bien nous comprenons que cela a un impact sur nos attitudes, sur nos comportements, parce que ce que nous faisons dépend du regard que nous portons sur les choses. Exemple. Nous ne nous comportons pas de la même manière envers les animaux si nous considérons que ce sont des garde-manger sur pattes ou si nous considérons que ce sont d'autres membres de la création. Et ce qui est vrai pour les animaux est vrai aussi pour les êtres humains. Et la Torah nous révèle ce qu'est le vivant, ce qu'est l'humain, ce qu'est être membre du projet de la création divine. Cette Torah non écrite, c'est celle que Jésus a manifestée et dont les disciples ont senti qu'elle était particulièrement incarnée dans ce personnage Jésus. Ce Jésus qui a exercé notre regard à voir dans les personnes qu'il rencontrait autre chose que des enquiquineurs, des empêcheurs de tourner en rond ou des impurs. Et cela, voyez-vous, a des conséquences sur notre comportement. Parce que, en fonction de la définition que nous donnons à l'humain, en fonction de la limite que nous posons à ce qui est humain et ce qui est inhumain, eh bien, nos relations ne seront pas les mêmes avec les autres, avec celles et ceux que nous rencontrons. Ce que l'Évangile nous révèle de l'humain, Emmanuel Kant, pour le restaurer un peu, beaucoup même, il le mérite, a formulé d'une façon tout à fait juste. Il disait ceci: agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans celle des autres toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Eh bien, c'est cela que nous autorise la foi. C'est de pouvoir repérer l'humain là où il est pour que nous ne traitions pas l'humain comme un moyen, au prétexte que nous considérions que celui-ci ou celle-là n'est pas vraiment humain, n'est pas totalement humain, ou que cette chose n'est pas totalement partie intégrante de la création, qu'elle n'est pas sous le regard de Dieu, et que nous pouvons donc en faire ce que nous voulons, l'instrumentaliser. Eh bien, la paix biblique passe par là, par la fin de l'instrumentalisation des personnes que nous côtoyons. Si la paix n'est nulle part, c'est peut-être parce que la part des croyants authentiques n'est pas encore à la hauteur des déclarations individuelles. Beaucoup se déclarent croyants, mais croyants au sens de ce que l'épître Jacques disait, « Tu crois que Dieu existe ? Tu fais bien, le diable aussi. » Et il frissonne. La question n'est pas de croire que ceci ou cela est vrai. La question pour le croyant est d'adhérer à cette anthropologie qui est suscitée par le texte biblique. Et si je le disais avec Tocqueville, eh bien je dirais que dans notre société que nous voulons bien démocratique, nous ne sommes peut-être pas si démocrates que cela. Parce que pour Tocqueville, la démocratie, ce n'est pas un mode de gouvernement, c'est une anthropologie. C'est une anthropologie qui considère que nous avons une dignité égale entre tous, que nous sommes tous d'une même dignité, et cela signifie que nous ne pouvons donc pas instrumentaliser les uns pour le service des autres, que nous ne pouvons pas utiliser un tel pour nos ambitions personnelles. Peut-être ne sommes-nous pas toujours très démocrates et utilisons-nous certaines populations, certains coins du monde pour des ambitions personnelles ou nationales, et en instrumentalisant les populations, nous encourageons la guerre. Alors, nous ne sommes pas encore dans les jours qui suivent. Mais après tout, ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'être quelque part. Cela signifie simplement que nous sommes dans les jours qui précèdent. Nous sommes dans les jours de la grande évolution personnelle. Nous sommes dans ces jours qui conduisent aux jours d'après. Ce sont les jours du surgissement de la foi. Cette foi qui consiste donc en une adhésion personnelle à cette vision de l'homme, à la création, que la Torah essaie de construire chez chacun, cette Torah parlée qui affleure dans les textes bibliques et dont les disciples de Jésus ont reconnu qu'elle s'était donc exprimée tout particulièrement avec lui. Nous vivons dans les jours qui précèdent le moment où la paix sera vraiment universelle, et voyez-vous, cela dépend de nous aussi, car il n'y a pas de paix sans les croyants, sans celles et ceux qui sont attirés par cette idée que nous pourrions vivre en harmonie les uns avec les autres. Il n'y a pas de paix sans celles et ceux qui sont attirés par cette idée que celui qui se tient là est un frère, une sœur, avec lequel il fait bon vivre. Nous vivons les jours qui précèdent, ce moment où nous pourrons dire à notre voisin, à cet inconnu, à cet ennemi, « Allez, montons ensemble à la montagne de l'Éternel et allons à la source de l'humanité. Rejoignons ce qu'il y a de plus humain en nous. Laissons nos vieilles querelles. Laissons ces possessions transitoires, ces valeurs relatives. Intéressons-nous véritablement à l'humain, cet humain que je repère chez toi, cet humain que tu peux repérer chez moi. Oui, allons, montons ensemble à la maison de l'Éternel. Et c'est alors que la paix sera par tous. Amen. » Le regard porté vers Sion, la Sion mythique, nous pouvons donc chanter le cantique 69, le Te Deum, les strophes 1, 7, 9 et 10. « Prenons place. À l'issue du culte, les peuples de l'oratoire pourront affluer vers la grande sacristie. Nous sommes le deuxième dimanche du mois. Il y a donc un verre fraternel qui est organisé derrière ces portes. Dans notre agenda de la semaine, demain, lundi, je relève à 20h l'approfondissement théologique, Salmono, en face aux 4 rues de l'oratoire, sur les créatures un peu surnaturelles des récits bibliques. Mardi 12 à 14h30, la lecture biblique dont le thème de l'année est les lettres de Paul. 14h30, Salmono également. Le soir à 18h, le chœur d'enfants se réunira pour sa répétition hebdomadaire, ainsi que le chœur d'adultes à 19h30, puisque jeudi est férié. Mercredi, le groupe biblique commun avec Saint-Eustache, qui se réunira justement à Saint-Eustache, de la passe Saint-Eustache, et ce sera l'occasion de parcourir tout spécialement le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Jeudi donc, c'est férié, donc vous pourrez venir au culte tranquillement à 10h30, culte présidé par Marc Pernaud. C'est l'Ascension. La société paraît-il déchristianisée, il est bon de rappeler les fondamentaux. Samedi 16, une cantate. La cantate aura lieu ici même à 18h. Dimanche prochain, notre culte à 10h30 avec l'éducation biblique. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des voisins, sans les contraindre d'entrer, proposez-leur de venir jusqu'à cette maison de l'Éternel. Et les activités finissent à 16h. Et puis pour les adultes, ce sera un après-midi de l'oratoire, c'est-à-dire la possibilité d'aller visiter un musée, d'aller se promener dans un coin de Paris, découvrir une exposition temporaire, en fonction du désir de chacun. Et puis, d'ores et déjà, je vous rends attentif au fait que le mardi 19, ici même à 20h, aura lieu une soirée société en débat avec Abdennour Bidar, un philosophe essayiste musulman, et qui s'interrogera sur quel humanisme partageable entre islam et occident. Rien que la formulation prête déjà à débat. Donc mardi 19 à 20h ici même. C'est maintenant le moment de l'offrande. Allez et montons vers les aumônières qui vont se déplacer dans le temple. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, et c'est pour ce monde que nous voulons prier. Te prier pour les responsables des nations qui rêvent parfois de leur imposer silence. Te prier pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Te prier pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Te prier pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Te prier pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Te prier pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous voulons te prier aussi pour les membres de notre Église qui, à partir de jeudi, constitueront le synode national. Donne-leur de pouvoir s'exprimer en toute liberté et de pouvoir débattre fraternellement des sujets qui seront à l'ordre du jour. Plus proche de nous encore, nous te prions pour celles et ceux qui sont dans l'insouciance de leur bonne santé et qui ont tant de mal à ouvrir les yeux sur les souffrances qu'ils côtoient. Nous te prions pour les malades, qu'angoisse la douleur, la solitude, le deuil. Et puis nous te prions pour les croyants. Les croyants qui ne savent plus très bien où ils en sont de leur foi. Les croyants sans cesse guettés par le doute. Les croyants qui ont soif de comprendre et qui ne comprennent pas. De prier pour ceux qui aimeraient croire. De prier pour ceux qui ont été déçus de leur croyance et de la foi des autres. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière, et nous désirons les nommer dans le secret de notre cœur. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux, et comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ, lui qui a enseigné à ses disciples à te dire cette prière universelle, cette prière qui nous fait dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À l'issue du culte, vous aurez peut-être envie d'aller voir les pasteurs pour leur poser plein de questions. Sachez qu'il y a aussi des conseillers presbytéraux et des diacres à votre service, et tout spécialement un conseiller presbytéral, en l'occurrence une, Bénédicte, qui porte le badge accueil. Vous la reconnaîtrez facilement. Et si vous êtes nouveau dans la paroisse, si vous avez des questions à poser, si vous avez quelques désirs à exprimer, eh bien, n'hésitez pas aussi à la solliciter. Frères et sœurs, recevons la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.